Mahou Shoftim Veshotrim. Le texte porte Shoftim Veshotrim. Il y a un vav entre les deux. Le vav, le e ici, a l'air de mettre les deux termes, c'est comme ça que le Midrash l'entend en tout cas, un peu sur le même terme, sur le même, la même hauteur. Rabbanan Amre, Sheye, Rabbanan disent, ce E vient me dire, Sheye, Ashoter Keshofet, que le Shoter doit être comme le Shofet. C'est-à-dire l'huissier, ou celui qui est chargé d'exécuter la décision du Beit Din, le Shoter, il doit être comme le Shofet, il doit être comme le juge. Donc les juges, ce sont donc les Dayanim, les juges. Lorsque quelqu'un est donc condamné par le Beit Din, il est confié aux soins de, enfin, il est confié au Shoter, et le Shoter va exécuter la sentence, c'est-à-dire si il a été condamné à payer, le Shoter va encaisser, ou il va éventuellement saisir les biens, et le cas échéant, il va frapper, ou il va, si c'est des makotes, etc. Et on dit ici que le Shoter, il doit être Yarev et Hagoun, dit le Etz Yosef, il doit avoir Yirat Shamaim, il doit être quelqu'un d'aussi convenable, pas que le chauffeur, que le juge. N'est-ce pas? Ceux qui sont chargés de, éventuellement, de contraindre les gens qui ont été condamnés à payer ou à leur infliger. On pourrait imaginer que les gens ne sont pas obligatoirement aussi fins que le juge. C'est des gens qui ont un travail peut-être un peu plus grossier. Et là, l'exigence, elle est que le shoter, il soit comme le shofet. Je continue la lecture, donc, du Midrash. « Kesheyu ha-ma'asim keneged ha-makel ve-ha-retsua » Si par exemple celui qui doit appliquer la sanction, il doit frapper. Il ne faut pas que lui-même en vérité ait une conduite telle qu'on devrait le frapper lui aussi. D'avoir à faire, autre chose, dit Rabbi Eliezer, mais makom sheyeshdin ein din, ou makom sheyein din yeshdin. Bon, une formulation un peu paradoxale. Là où il y a le din, alors il n'y a pas de din. Et là où il n'y a pas de din, alors il y a le din. Pardon, là où il y a le din, il n'y a pas de din, oui, et là où il n'y a pas le din, alors il y a le din. Maouken, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a amar Rabbi Eliezer, im naase hadin le mata, en hadin naase le mala. Si on fait le din dans le monde d'en bas, alors on n'a pas besoin de faire le din dans le monde d'en haut. Vim lo naase hadin le mata, is hadin naase le mala. Si effectivement on n'applique pas le din dans le monde d'en bas, alors c'est dans le din, c'est en haut qu'on devra l'appliquer. En d'autres termes, ici, on voit très clairement que les hommes sont invités à éviter qu'Hachem applique le din. Ce que nous avons, nous, c'est la possibilité d'éviter que ce soit Hachem qui applique le din. Parce que si c'était Hachem qui appliquait le din, ce serait plus grave. Alors on pourrait dire, ouais, mais Hachem lui tient compte de tout, alors que le tribunal ne tient pas compte de la veuve et de l'orphelin et des conséquences économiques, etc. Oui, mais il y a un passouk qui dit, au sujet du, je crois, du Messie, d'une manière, de celui qui entraîne les autres à fauter, où Hachem dit, si jamais. Non, pardon, c'est dans le Molech, je crois. Celui qui passe son, ses enfants au, au feu, là, selon le principe du Molech. Alors Hachem dit, si jamais les gens le couvrent, si la société le laisse faire, alors, le samti panai, ani, alors Hachem dit, alors moi je me tournerai vers lui, et vers Ube Mishparto, et je jugerai la famille aussi. Tandis que le tribunal, il ne juge que lui. C'est-à-dire, Hachem, c'est vrai que Hachem peut tenir compte des conséquences, mais du coup, il va tenir compte aussi et juger tous ceux qui auraient pu, par exemple, intervenir et l'empêcher de fauter, et donc qui, eux aussi, portent une responsabilité, le cas échéant. Et donc, quelque part, ça peut être... Or, c'est presque sûr que on aurait pu faire quelque chose pour éviter, etc. Donc, il y a tout... Quand il dit Mishmarto, ça veut dire... tous les gens qui étaient susceptibles de l'empêcher de fauter, et qui ne lui ont rien dit, qui l'ont laissé faire, que... par crainte, par intérêt, par désintérêt, par indifférence, ou peu importe, tous ces gens-là, ils vont rendre des comptes devant Hachem. Et donc, si on veut éviter qu'effectivement Hachem doive s'en occuper, il vaut mieux que nous nous occupions du din très limité, que nous on s'occupe de celui qui a fauté, qu'on a averti, etc., et pas plus. Très bien, ça, c'est dans les délais. Et donc c'est l'intérêt. Qu'est-ce qu'il a, maintenant? L'intérêt que c'est ce que c'est ce truc là?
Ce sont des mousses qui viennent de la route.
Oui, ça je vois, oui. J'entends.
C'est Thierry qui a voulu vous rapprocher.
C'est ça.
Oui, il m'a rappelé, je pense. Yaakov, t'es là?
Je crois qu'il appelle, mais il n'y a pas.
Il appelle, mais on ne voit rien? Ah, c'est lui qui appelle, tu crois? Le problème, c'est que moi, je ne sais pas comment appeler. Ah, voilà. Ah non, c'est tout. Non, c'est tout. Il va rappeler, j'imagine.
Je ne sais pas comment c'est sur le monde.
Ah, mais ça, c'est fou.
Bon, non, ça, c'est pour appeler au téléphone. C'est Bellamy, par exemple. Enfin, il est à deux endroits, je ne m'appelle jamais si c'est celui-là.
Il devra apparaître si c'est celui-là. Si, en cliquant sur le compte, non, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment ça marche sur un PC.
Ces derniers temps, avant j'avais un truc que je pouvais appeler moi, mais je ne sais pas. Je sais pas.
C'était racheté par Microsoft.
Je sais pas ce que c'est. Oui, justement, j'imagine qu'il va rappeler.
Ah ben voilà, il est offline, donc il est hors ligne.
Oui, mais pas. C'est pas lui, il a pas voulu.
C'est un moi. Problème chez lui.
Oh. Ok, bon, je vous en prie. Moi j'ai fermé, je peux rien faire de toute manière. Okay. En tout cas, je sais pas le faire. Donc, Rabbi Eliezer dit ici cette chose très importante, c'est-à-dire que Ibn Asedin le Mataz et Ibn le Mala, c'est pas nécessaire de faire le din dans le monde d'en haut. Le Yetz Yosef dit euh, Dina c'est le mala. Im le mata ma'alimim aïn. Si on détourne les yeux et on ne regarde pas ce que fait celui qui faute, mile anish bechotim, az yesh din le mala bechol makom. On ne lui évite rien du tout. Il va être jugé par le ciel. Machin ken que si yesh din le mata, kdash kechan beavon shel peor. שמתחילה יצא הקצף על כולם, כשנעשה דין בחותים, שב חרונף השם מישראל. On voit de plusieurs fois dans la Torah que quand on a jugé les fautifs, eh bien la colère qui était une colère qui frappait la collectivité, c'est bon, elle s'est apaisée parce que eux ont payé en fait. Voilà donc ce numéro 5.
Excusez-moi, quand même, comment est-ce qu'on peut penser qu'il ne puisse pas y avoir de dîme mala?
Parce que nous l'avons fait. Il y a eu dîme. Hachem nous a justement délégué la possibilité de faire à sa place. Si nous faisons à sa place, alors il n'a pas besoin de faire, en quelque sorte. On avait vu un chazal qui dit, Hachem dit, dans ce cas-là, moi je peux m'occuper de vous faire du bien. Si vous me déchargez de la charge de vous sanctionner, ben je m'occuperai que de vous faire du bien. Donc si vous voulez, ça donne un tout autre dimension à au travail du tribunal. On comprend bien que ça doit être parfait, bon, puisque à la limite on veut se substituer à Hachem, mais c'est Hachem qui nous invite à nous substituer à lui. C'est pour ça qu'on avait vu dans ma Sanhedrin que le tribunal il doit en permanence considérer qu'Hachem nitzav, qu'Hachem est juste au-dessus d'eux et que quelque part ils sont les exécutants. Mais du coup, c'est l'avantage des hommes. Makom shi yesh din, c'est-à-dire yesh din le mata, si yesh din ici en bas, as en din le mala. C'est pas nécessaire qu'il y ait din le mala. Par contre, s'il n'y a pas de din en bas, alors c'est en haut qu'ils vont devoir. De toute manière, il y a un principe de justice, la justice elle doit passer. Davar acher, encore autre chose, vav. Davar acher, shoftim ve shotrim, amar avacha bo ure. Viens et regarde. Shesh ma'alot ayu la kisse shel Shlomo. Le trône de Shlomo à Melech avait six marches pour accéder au trône. Minayin. D'où est-ce qu'on sait ça? Chez Neymar, chez Malot la kissé. C'est un passage explicite qui dit qu'il y avait 6 degrés pour accéder au trône. Ou à Parashazou, Ktuvim, Shisha Dvarim. Et chez nous, dans notre Parasha de Shoftim, il y a Shisha Dvarim, Belotaase. Il y a 6 interdits. Des choses qui sont dites, l'autre assez, ne fait pas ci, ne fait pas ça, etc., 6 fois. Et le Midrash va donc mettre en rapport ces 6 interdits avec les 6 marches du trône qui pour accéder au trône de Shlomo. Et voilà, l'autre mishpat, la première chose, c'est tu ne fausseras pas le jugement. Deuxièmement, velot akir panim, littéralement ça veut dire tu ne reconnaîtras pas certains visages. Ça veut dire par exemple parler d'une manière, ah oui on se connaît, on a joué au golf ensemble, etc. Et puis à l'autre, bon je te connais pas. Parce que cette attitude-là, même si ensuite on pense qu'on va juger en toute équité, Mais d'une certaine manière, celui qui voit que le juge est proche de l'autre partie, il a déjà perdu une partie de ses arguments. Mais qu'est-ce que je vais dire? C'est son copain. Évidemment, ensuite, l'otikar shochad. Tu ne prends pas de pot de vin. Et l'otitalcha ashera. Tu ne planteras pas de Asherah. Et l'Asherah, c'est en fait un arbre sacré. L'Agmara dans Sanhedrin l'avait expliqué, et lui aussi on va expliquer, que une Asherah, c'est un juge qui n'est un juge incompétent. Tu n'installeras pas dans tes tribunaux des juges incompétents. Il y a un juge qui est là parce que c'est une prébende, parce que c'est... Velotakim le chamatseva. Alors ça a l'air d'être tout à fait autre chose, mais on va voir. Tu ne dresseras pas de stèle. Aujourd'hui, le mot matseva, on l'utilise uniquement dans les cimetières, les stèles mortuaires en fait. Mais dans la matseva, c'est une chose très intéressante parce que les avot, nos patriarches, quand ils approchaient un korban, ils l'approchaient sous forme d'une stèle. C'est-à-dire, ils prenaient une stèle, et ce qu'ils faisaient en général, c'est qu'on faisait une onction de la stèle. C'est-à-dire, on mettait de l'huile sur la stèle. C'était ça l'avoda. C'est graisser, donc, faire apparaître. C'était un support d'huile ou un support de graisse, donc. Et c'était un korban agréé. Or, dans le Sefer Dvarim, Hachem dit, je vous interdis d'apporter comme des korbanot sur des matzevot, et des choses que je déteste, etc. Donc c'est l'évolution, en quelque sorte. À partir du moment où les homota olam, les idolâtres, ont commencé à, eux aussi, à porter des korbanot, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Monsieur est bien bon. Ouais. Et donc c'est devenu interdit, et non seulement c'est interdit, mais en fait c'est présenté comme quelque chose de totalement haïssable par Hachem, enfin haï par Hachem. C'est très étrange, quelque chose qui a changé, quoi. C'est entre Bereshit, si vous voulez, et Dvarim, d'accord, ça a changé quelque chose qui était en odeur de sainteté, c'est vraiment tout à fait accepté, et tout à coup c'est devenu quelque chose de totalement refusé. C'est l'évolution. Parce que les goïms ont commencé. Comme les idolâtres ont commencé à faire ça aussi, alors jamais les gens ne veulent plus. C'est la raison pour laquelle les femmes juives en Occident, en pays chrétien, ne se couvrent pas ostensiblement la tête autrement que parce qu'elles ont les cheveux couverts, mais elles ne mettent pas de chapeau ostensiblement au titre de la prière pour aller à la shul, ils ne mettent pas justement de chapeau, parce que les femmes goy se sont mises à mettre des chapeaux. Parce que normalement, elle devrait, de la même manière que les hommes mettent une kippa ou un chapeau, c'est pour montrer la Yirat Shamayim, pour montrer qu'on considère qu'on a quelque chose au-dessus de soi. Alors elle devrait aussi mettre une kippa ou quelque chose. Et dans les pays Sfarad, on n'avait pas ce problème-là. Et il y a beaucoup de poskim qui considèrent qu'une jeune fille Sfarad, pour faire des brachot, elle doit mettre une kippa. Alors Yosef, il dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Il est peu suivi, mais non, ça se comprend très bien. Si c'est un problème d'Irat Shamaï, il n'y a pas de raison que ce soit réservé aux hommes. Alors, les femmes, on pourrait toujours dire, elles ont de toute manière la tête couverte, par ailleurs, pour des raisons de tzniout, enfin des raisons, elles se couvrent la tête, elles ont une perruque ou un chapeau, mais pas parce que, pas pour montrer la Irat Shamaï. Et par conséquent, une femme qui a une perruque, elle entre dans une synagogue, elle ne met pas de chapeau obligatoirement. On n'a pas besoin de mettre un chapeau. Si on pensait qu'il faut mettre une kippa, il faut la mettre ostensiblement. Il faudrait. Alors là-bas, les Ashkenaziotes, elles ont pris l'habitude de ne pas justement mettre de chapeau, à ce titre-là. Sauf ceux qui ont décidé de copier les chrétiens et qui mettent des chapeaux parce que les chrétiens en mettent. Ça, c'est le monde à l'envers. Donc.
Est-ce qu'on n'avait pas dit par ailleurs que justement pour un idolâtre qui rentre dans un culte, il y a tout un ensemble de conditions. Il ne suffit pas simplement
Ça dépend justement. Il y a des choses qui étaient universelles et il y a des choses qui étaient propres à certaines idoles. Par exemple, justement, se prosterner, c'est universel. Ça, tout le monde considère que se prosterner, c'est un geste standard de reconnaissance de la puissance de celui devant lequel on se courbe. Par exemple, il y avait des idoles qu'on servait de telle ou telle manière, qu'il fallait la briquer ou un truc comme ça, ou alors il fallait lui amener, cette nourriture-là ou autre chose. Bon, ça c'était spécifique à tel ou tel dieu, enfin idole ou déesse ou dieu. Non, mais on n'est pas allé systématiquement parce qu'on, par exemple, les hommes ne l'ont pas fait. Si c'était absolu, on devrait. Parce qu'eux, ils se découvrent. Chez eux, les hommes se découvrent. Sauf le pape et quelques autres unitaires, mais.
Non, mais dans le principe, ça suffit.
Non, c'est pas que ça devient une idolâtrie, c'est qu'on veut se distinguer. Donc à partir du moment. Enfin, ici, on voit. À partir du moment. C'est comme ça que. Je ne connais pas d'autres explications, mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Et à partir du moment où les idolâtres se sont mis à faire des matzévot comme culte, dans leur culte, nous, Hachem a dit, moi j'en veux plus. Il y a probablement un ou deux autres cas d'évolution à l'intérieur de la Torah. De choses qui ont changé, qui... Mais ça, c'est l'exemple typique.
Est-ce que ça paraît une explication un peu...
Oui, mais c'est difficile de trouver une explication si l'explication, elle doit rendre compte du fait que c'était louable et c'est devenu haïssable, entre-temps, et qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas, dans l'absolu, c'est pas Hachem qui a changé. Donc c'est les hommes qui ont changé. En tout cas, c'est un des six. Lo takim lecha matzeva, velo tisbach l'Hashem elokecha asher vaseh. Et tu ne donneras, tu n'amèneras pas comme korban, shor vassé, on va voir, littéralement un taureau et un agneau. Enfin, ça fait 6. Alors, il y avait à Karouz, Omed lifnei kiso shel Shlomo, il y avait probablement un héros, un type qui criait, qui était devant le trône de Shlomo. Quand Shlomo HaMelech montait, il était sur la première marche pour accéder à son trône, il criait Lotate Mishpat. Mala Shnia Yakorez Lotakir Panim. Shlishit Yakorez Lotikar Shochad. Revit Lotitalcha Ashera. Chamishit Lotakim Lechamatseva. Shishit Lotisbar Hashem Elokecha. Amar Abchia Baraba, Seder Adin Kachou. Alors maintenant, Abchia Baraba, il va dérouler, il va dire voilà comment se déroule un procès. Alors on va faire une pause pour l'instant parce que on voudrait savoir qu'est-ce qui a été dit là, qu'est-ce que c'est que ce truc de Shlomo HaMelech. Ici, Shlomo HaMelech, il est présenté ici comme si ce trône de Shlomo HaMelech était un trône de juge. A priori, c'est son trône de roi. Mais là, donc, on fait l'hypothèse que Shlomo HaMelech est le juge. Bon, alors, tout le monde connaît le jugement de Shlomo HaMelech, donc il y avait, à cette époque, les rois étaient juges aussi. Jusqu'à Yanaï, un roi pouvait juger. Etz Yosef. Dit cela vite, l'otital chashera, tu ne te planteras pas d'arbre sacré auprès de l'autel. Moshe Amru Chazal, Masechet Sanhedrin, kol ha'ma'amid dayan she'eino hagun ke'ilu onato hashera etzel mizbach Hashem. Ce que je vous ai dit dans la Gemara dans Sanhedrin, on dit que deux maîtres de nommer un juge incompétent ou qui n'est pas convenable, c'est comme si on avait planté un arbre sacré auprès de l'autel. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on avait mis l'idolâtrie à côté du misbère, à côté de l'autel. Donc le problème, c'est, en fait, est-ce qu'on peut réfléchir un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Pourquoi on compare le fait d'avoir un juge qui ne soit pas intègre ou incompétent à une idole, à une idole placée à côté du misbère, à côté de l'autel.
L'idée c'était qu'on disait que le juge déjà se doit de ne pas correspondre à la punition qu'il donne. On disait ça tout à l'heure.
On l'a dit sur le shoter. C'est vrai aussi sur le juge, mais oui. C'est même le shoter, même celui qui effectue le... Oui. Qui, il ne faut pas qu'il encourt ce qu'il va...
Voilà, ouais. Et qu'en même temps que le...
Non, mais lui, il n'est pas agoun, c'est pas obligatoirement qu'il mérite cette même sanction, mais bon, c'est pas quelqu'un de convenable, il n'est pas complètement intègre, ou... Mais en fait, c'est pas... On ne peut pas parler d'ici de son intégrité, parce que c'est déjà dit par ailleurs.
Oui.
Essentiellement, c'est un incompétent.
Vous disiez tout à l'heure qu'il était l'instrument, l'exécutant.
Oui.
Et peut-être que tout d'un coup, ça veut nous dire que...
Oui, il ne faut pas le faire, donc. Il ne faut pas le mettre. S'il est incompétent, on ne peut pas le mettre auprès de l'autel.
Voilà.
Premièrement, on voit ici que dans cette opération-là, on est en train de mélanger deux sujets, quoi. On parle de... Le misbéar, c'est un problème d'avoda, et le reste, et le juge, c'est un problème de mishpat, c'est pas... Donc, on voit très bien que ici, on veut nous montrer que il n'y a pas séparation des sujets, quoi, ici. C'est ne pas juger comme il faut, c'est exactement de la même manière que de ne pas faire la avoda comme il faut, et bien plus, c'est même comme d'être idolâtre, quoi. Pratiquer une idolâtrie. Non, mais il ne veut pas faire bien, là. On nomme ici un juge qui n'est pas... Alors, c'est intéressant parce que la faute, elle est où, la faute ? La faute, elle n'est pas tellement dans le juge qui, lui, n'est pas à la hauteur. La faute est dans celui qui l'a nommé. À la limite, celui qui est en charge de nommer, c'est-à-dire le Sanhédrin. Sanhédrin ne doit pas coopter parmi ses membres un juge ou celui qui est en charge de. Il y a un tribunal, etc. Lui, il doit veiller à ne pas nommer parmi ses membres un juge qui ne soit pas compétent, pas intègre. Et c'est vu comme de l'idolâtrie. Parce que, donc, ça veut dire que juger, en fait, c'est servir Hachem. Et mal juger, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que le jugement, c'est la même chose que d'apporter un corban, en fait. Toujours, c'est servir Hachem. Alors, si on va jusqu'au bout de l'idée, on avait dit que le jugement, c'est quand Hachem, en fait, c'est-à-dire c'est se substituer à Hachem, sur l'ordre d'Hachem, c'est pas nous qui avons décidé unilatéralement de juger. Il y a une mitzvah de juger. Donc Hachem nous a donné la mitzvah, nous a commandé de juger. Et donc maintenant on dit que c'est la même chose que de servir Hachem. Le service d'Hachem nous est également commandé. La avoda, Hachem, c'est tout ça, c'est très clairement défini. Quand tu apportes un korban, comment tu l'apportes, qu'est-ce que tu apportes, dans quelle limite de temps, d'espace, etc. On fait la avoda comment on la fait. Et on entend déjà, quand on dit les choses de cette manière-là, on entend déjà la suite qui est le déroulement du procès. D'accord ? C'est sur le modèle du déroulement de la avoda. Puisqu'on vient d'établir que c'est la même chose, c'est pas de servir Hachem en jugeant ou de servir Hachem avec une avoda. Alors maintenant, de même manière que quand on apporte un korban, il y a un processus bien précis. De la même manière, il y a aussi un processus bien précis dans le déroulement du jugement. Il y a une odeur ou c'est moi qui rêve?
Ça
sent le brûler.
Ouais.
Ouais. Plus, ça sent le gaz, mais. Ouais. Vous ne sentez rien? Je vais quand même aller regarder. Donc ça c'est donc ça, ici on introduit la dimension de avec la HRA, on introduit la dimension de comparaison de comparaison entre la avoda et le jugement. Un arbre sacré, ça veut dire on adore quelque chose qui est qui est un arbre, qui n'est pas une production humaine. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose. Bon, il a fallu le planter, mais une fois qu'on l'a planté, il se développe en tant qu'arbre. C'est pas une sculpture, On dit ici justement que de être ma'amid, je pense que c'est planter littéralement, planter un dayan, planter un juge qui n'est pas agoun, c'est comme planter une achéra. Ensuite, ce qui va se développer, etc., c'est naturel. S'il n'est pas bon, naturellement, il y aura tout de suite toutes sortes d'iniquités, toutes sortes d'injustices et de faux psakim, etc., qui vont sortir. Et tout le problème était de l'interdire de le planter, quoi. D'être ma'amid. Et peut-être que justement, on dit ça à Shlomo HaMelech, en sens, lui, il est responsable. Tu es le roi, donc tu vas nommer des juges, tu es responsable. Jusque-là, si vous voulez, lorsque, dans ce qui est dit, l'otate mishpat, l'otakir panim et l'otikar shochad, ça le concerne lui directement en tant que juge. L'otital chashera, c'est dans la mesure où il va déléguer. Tu vas déléguer à d'autres de juger, donc, puisque tu vas nommer des juges. Donc le problème de la nomination de juges qui soient agonim, donc on passe à un autre niveau.
L'idée de planter, c'est peut-être justement un autre, à cet autre niveau dont vous faites allusion. C'est ce que ça va produire demain. En fait, c'est une construction sur l'avenir, sur le futur. C'est une idée très, très forte, très profonde. C'est
donner
la vie.
C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand vous plantez un arbre, que ce soit une achéra ou un bon arbre, un arbre permis, ben, il prend son énergie dans la terre de la même manière. Les deux prennent, tirent leur... fabriquent leur sève de la même manière, les deux arbres. Et donc, ça veut dire que ce juge-là, il va avoir la même autorité qu'un juge qui n'est pas, qui lui ne serait pas une achéra, qui serait vraiment un bon juge. Et donc, finalement, ça risque ça posera un énorme problème parce qu'on ne saura pas, finalement, comment tu vas le disqualifier. Il a la même autorité. Il a été nommé par la même personne. Donc, toi, Shlomo HaMelech, tu as nommé un bon juge et celui-là, et bon, ben, finalement, ils ont tous les deux le même pouvoir, puisqu'ils ont la même délégation de pouvoir.
Mais ça va introduire une dualité.
Alors, ça va introduire une dualité, au moins une dualité. Oui.
C'est-à-dire, il y aura justement la référence à...
C'est ça, oui. C'est même bien cette idée-là. À côté du Misbar, tu mets la Shéra. On pourrait dire la Hachéra, elle ne m'empêche pas de servir Hachem. On a planté une Hachéra, il y a un arbre. Qu'est-ce que ça veut bien faire qu'il y ait un arbre à côté? Je me prosterne et je m'occupe de... Je mets mes corbanotes sur le misbeur, je ne les mets pas, je les donne pas. Mais le fait qu'il y ait côte à côte les deux, ces deux autorités en quelque sorte, ces deux références, c'est déjà complètement pourri. Parce que planter une Hachéra, c'est déjà assourd n'importe où. Ici, ce qu'on veut dire, c'est planter une Hachéra à côté du Misbar. C'est une autre affaire. C'est pas de planter une Hachéra, ce qui est déjà interdit par ailleurs, même si elle n'est pas à côté du Misbar. Mais ici, à côté du Misbar, l'accent est mis sur autre chose, comme ce que vous dites, Rémi. Maintenant, la matseva, l'otakim lecha matseva, Etz Yosef dit שכשם שהמזבח היה צריך להיות מן האבנים, מן אבנים הרבה, ולא מצבת אבן אחת, כן הסנהדרין, כי אין דן יחידי אלא אחד. Ici, c'est, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fait, c'est ne juge pas seul. Ne juge pas seul. Il faut assurer qu'il y ait, que les choses soient discutées. Si on n'a qu'une seule idée, on risque pas, on ne défend pas suffisamment les points de vue qui pourraient être en faveur de celui qu'on accuse, par exemple. On sait, dans la même veine, on a que si jamais un tribunal arrive à, quand il passe aux voix, on a une unanimité, la personne est acquittée. Parce qu'on considère qu'on n'a pas suffisamment défendu on l'a pas suffisamment défendu. C'est pas possible. On considère que si on n'a pas réussi, s'il n'y a pas quelqu'un qui a réussi à trouver des arguments en faveur de l'accusé, on n'a pas assez bossé. Si on n'a pas assez bossé, ben, qu'il s'en aille. C'est intéressant. C'est sûr qu'il est fautif. Donc là, il y a tout un problème. Si vous êtes le dernier, et vous savez qu'il est coupable, et tous les autres ont voté coupable, maintenant vous savez que si vous dites ce que vous pensez, il sera acquitté. Est-ce qu'on a le droit de mentir et de trouver un, chercher, de dire un argument, c'est-à-dire de voter autrement que les autres? Parce que c'est le seul moyen de le faire condamner.
C'est le même problème pour un médecin qui a en face de lui un malade qui est condamné, qui sait que le malade veut entendre non.
Ou la vérité, non, mais ça, chose.
Oh, c'est une question classique. On n'a pas le droit de mentir. Vous êtes obligé de dire ce que vous pensez. Vous ne pouvez même pas dire que vous n'avez pas d'idée. Ça ne servira à rien. Parce que quand on juge, on ne tient pas compte des opinions de tout le monde. On tient compte seulement des nouvelles opinions. C'est-à-dire que si on a 23 juges, alors si on demande, on commence par le plus jeune, on commence par le plus petit, alors il donne un argument pour condamner par exemple. Si vous derrière, vous êtes le deuxième, et vous dites, ben, je pense comme lui, pour les mêmes raisons, vous comptez pas. Il n'y a toujours qu'une seule voix. Donc si tu dis je sais pas, ben, tu laisses l'unanimité. Si tu ne te prononces pas. On vote pas, tout le monde ne vote pas. Non, ne vote que, on ne compte que les idées nouvelles. C'est les raisonnements nouveaux en faveur ou en défaveur de l'accusé.
Là, je comprends pas. Dans le cas que vous citez ici, vous êtes le dernier. Vous devez donc.
Et vous avez un argument pour le. Vous avez un argument pour le faire condamner.
Non,
j'ai un argument pour le faire condamner. Mais je pourrais fabriquer un argument auquel je ne crois pas vraiment, d'accord, mais qui l'innocenterait. Là, c'est assez facile parce que comme tout le monde a voté contre.
Je n'ai pas compris comme ça, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour la majorité, donc le condamne, le voisin, et vous êtes le dernier. Et là, tout à l'heure, vous disiez que si tout le monde le condamne, en fait,
il est acquitté. Oui.
Donc ici, si on prend cet exemple-là, on prend donc la majorité, sauf le dernier, donc l'a condamné, et que le dernier, lui, pense qu'en fait, cet homme-là
doit être condamné.
N'a pas fauté.
Non, il doit être condamné.
Non, mais si, par exemple, lui...
Ah bah, il a qu'à le dire.
Mais s'il le dit.
Mais il sera condamné parce que ça c'est normal. Ça c'est la loi normale, vous êtes minoritaire.
Si le dernier pense qu'il n'a pas à être condamné.
Alors non, mais c'est la même chose. Alors, dans ce cas-là, il pourrait dire ben alors je vais dire ce que je ne pense pas. C'est-à-dire, je vais dire, ben voilà, un argument, et à ce moment-là, je le ferai condamner. Ou je le ferai acquitter. C'est dans les deux sens, ça fonctionne.
Le dernier, et qui est persuadé qu'il est...
Il doit dire ce qu'il pense vraiment.
Mais il va le faire condamner.
Oui, tant pis. Parce que... Pourquoi pas, bien sûr. Mais pourquoi psychologiquement? Le problème, c'est la halakha, tu dois dire ce que tu penses. Après, ce n'est pas ton problème. Maintenant, quand vous êtes à 4-6 ou un truc comme ça, ou à 5-5, bon, ben, quoi?
Si c'est le dernier qui décide, ben, c'est le seul juge qui voit tout sur lui. Il ne compte pas parmi les 23, il compte un seul. C'est lui le seul. C'est comme si c'est lui qui était l'arbitre des 22.
Non, il n'a pas le droit, il doit dire ce qu'il pense.
Il compte parmi eux, il n'est pas...
Il compte parmi eux, comme les autres. Comme si on l'avait interrogé avant, sans qu'il sache qu'il était le dernier. Et qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit ce qu'il pense. Ben, tu dis ce que tu penses.
Mais il a un pouvoir décisionnel.
Non, c'est phénoménal. Mais
il doit s'écraser devant ce pouvoir et dire, je dis ce que je pense.
Il ne peut pas faire l'impasse sur le fait...
Si, mais c'est ça être juge. C'est pas son problème s'il va être condamné ou pas. Lui, il doit dire ce qu'il pense. C'est pas. Ça, c'est la halakha est comme ça. On pourrait dire la halakha, elle est.
Non, mais je la connaissais pas, donc c'est pour ça. Mais...
C'est pour ça que je voulais soulever le problème.
Et je ne savais pas que ça, c'est vraiment un tribunal.
Ils ont tous le même argument, il n'y a qu'une seule voix. Mais...
Vous inquiétez le préjudice.
Parce qu'on considère qu'on ne l'a pas assez défendu.
C'est incroyable. Au moins qu'il revienne, qu'il soit rejugé, qu'il soit libéré.
Une fois que quelqu'un est jugé, il est jugé. L'autorité de la chose jugée.
Non, et ça me paraît demander une phénoménale force de caractère pour être capable d'aller contre sa conviction, finalement. Parce que finalement, un juge, dit-on en son âme et conscience.
On parle que le procès condamné, si l'ensemble des
femmes
des
jeunes
disent il est coupable, il est quoi?
On n'a pas assez défendu.
C'est incroyable aussi ça.
La Torah, elle considère que il doit être défendu, il n'a pas été défendu.
Pourquoi qu'il soit rejugé?
Pourquoi ai-je rejugé? Qu'est-ce que tu veux rejuger? Ils n'ont rien fait de mal, les juges. Et alors, s'il est coupable? Mais le problème, c'est Mina Shamaim, ça veut dire qu'on le laisse courir. Mmh. Alors, il court.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est quelque part, ça ne vient pas dire que si quelqu'un fait l'unanimité contre lui, parce que vraiment, il n'y a aucun doute, c'est un rachat chez rachat, il y a quelque part une responsabilité collective. Ah.
Ça, je ne sais pas, parce que c'est un din dans le din, dans le Sanhedrin. C'est pas un din sur quelqu'un dont on dit qu'il est un rachat comme ça. C'est très possible, ça c'est le problème de la société. Est-ce qu'on est rousseauiste? Comment est-ce qu'on évalue l'influence de la société? Est-ce que vous pensez que si effectivement personne ne lui trouve aucun argument? Est-ce que vous pouvez défendre cette thèse? Enfin, vous pouvez effectivement défendre la thèse que c'est la faute de la société, finalement.
Moi, je ne dis pas la faute, mais ça interpelle
Mais une fois qu'on est interpellé, il faut répondre.
Déjà, de prendre, si je puis dire, conscience de ça, c'est déjà...
Mais le problème, c'est d'abord, je ne sais pas, on n'a pas le droit de juger quelqu'un, hein. Si on n'est pas juge.
Mais ça fait un peu dans le cas précis, c'est pas un problème de circonstance intelligente. Est-ce que la personne a fait ou pas quelque chose d'interdit? C'est pas lui trouver.
Non, mais le problème, c'est, par exemple, imaginez quelqu'un a tué B devant Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. C'est eux les témoins. on ne pourra pas le juger. Il est certain qu'il était, c'est un assassin. Vous n'allez pas me dire, on les croit, Aaron et Moshe. Mais la halakha est que deux frères ne peuvent pas témoigner ensemble. Terminé, donc on n'a pas deux témoins, terminé. Il court, hein, le bonhomme. On ne va pas le rejuger, on ne va pas chercher d'autres. Peut-être qu'il y aurait d'autres témoins. Si les témoins ne sont pas présentés, d'ailleurs même s'ils ont vu en même temps que Moshe et Aaron, si, la présence de Moshe et Aaron dans le même groupe de témoins ferait tomber le témoignage.
Ah oui, parce
que... Vous imaginez, Moshe et Aaron et puis d'autres gens, Kacher, mais ils forment un groupe. Ils ont vu tous en même temps.
La fraternité de ces deux-là va rendre caduque l'ensemble.
Tout le, ouais, tout le groupe. Nimsa Echad Mem, Karov ou Pasoul. C'est ça, c'est la justice divine. Hachem a dit que c'est comme ça. Al Pishnaim Edim Yakum Dafa. Il faut deux témoins pour que la chose tienne. On ne dit pas que c'est vrai. On te dit, on se conduira comme ça. C'est pas, on n'a pas de critère de vérité. Yakum davar, la chose, elle tiendra comme ça, elle durera comme ça. On n'a pas la prétention de dire la vérité. On a la prétention de juger d'après les critères de la Torah. Et vous voyez bien que, par exemple, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, ils disent, ben, nous, on est contre la peine de mort, et... Donc, il faut savoir pourquoi ils sont contre, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas contre la peine de mort comme obligatoirement en Badinter ou autre. Ils sont contre la peine de mort, mais c'est lié au fait que le tribunal, on a déjà parlé de ça, que le tribunal qui juge est aussi le tribunal qui fait la loi. C'est aussi le législatif. Et par conséquent, chaque fois, et aussi d'une certaine manière l'exécutif, parce que ça veut dire que chaque fois qu'on juge quelqu'un qui a transgressé, le tribunal est en train de dire « j'ai mal fait connaître la loi, j'ai mal enseigné la loi ». Et donc il perd de sa crédibilité. Et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon pensent que l'importance de la crédibilité du tribunal est plus importante que le fait de laisser courir un assassin. Mais dans la même Mishnah, c'est Rabbi Shimon Ben Gamliel, je crois, dit... Ne croyez pas que vous avez trouvé une solution fantastique. D'accord ? Parce que maintenant, les bandits, ils sont tranquilles. Ils risquent rien. Hein. Avec vous, ils risquent rien. Si vous mettez vous dans le tribunal, ils savent qu'ils ne seront pas condamnés à mort. Comme il n'y a pas de prison chez nous, et que ce qu'ils encourraient, c'est une peine de mort, mais on ne peut pas leur donner parce que, à cause de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon qui poseraient des questions jusqu'à ce que les témoins se contredisent. Ça fait tomber le témoignage, terminé. Ils disent comment ils feraient. Hein. Ils demanderaient quelle, la couleur, quelle était la couleur de la tige des figues sur le figuier sous lequel A a tué B. Vous dites que A a tué B sous tel et tel figuier à tel et tel endroit. Quelle était la couleur de la tige des figues? Alors, s'il y en a un qui dit qu'elle était un peu verte et l'autre dit qu'elle était rouge, c'est fini, ils sont contredits, terminé, il n'y a plus de témoignage.
Ici, se pose la question de comment on peut. Comment une société.
Alors, il faut savoir, la Torah, je crois, le problème c'est que, pour dire la vérité, la Torah, elle n'est pas faite pour les gens qui ne veulent pas la respecter. Que pour les gens qui ne veulent pas la respecter, il y a le roi. Il y a le roi. Il y a un pouvoir. Ouais. Le roi, il peut juger avec un seul témoin. Il n'a pas besoin de toutes ces... D'accord. Mais ça, c'est... Lui, il est en charge de faire respecter l'ordre dans la cité. Oui, c'est ça. C'est le roi, parce que lui, il doit faire respecter l'ordre dans la cité. Mais la Torah, elle ne vient pas faire respecter. Le Ramban, il le dit clairement, la Torah, elle vient pas... Les lois de la Torah, elles sont inapplicables, la plupart. Même pour donner des coups à quelqu'un, il faut qu'il soit vraiment... il faut vraiment qu'il soit de bonne composition, puisqu'il faut qu'il accepte l'avertissement, et qu'il agisse dans la seconde qui suit l'avertissement, etc. Il faut d'abord qu'il y ait deux témoins qui sont pas en famille avec lui, qui ne sont pas en famille entre eux, ça fait beaucoup, des deux juifs cachers.
Est-ce
c'est pas complètement utopique, c'est-à-dire, utopique ça veut dire que ça n'a pas de lieu, n'est-ce pas? Utopique ça veut dire que c'est un non-lieu. C'est pas totalement utopique parce que c'est le topos de où ça peut avoir lieu, c'est le topos fabriqué par les gens qui veulent vivre selon ce principe. Il y a des gens qui veulent vivre, alors il y a des gens qui voudront, ils disent, voilà, j'ai fait une faute, donnez-moi la, dites-moi ce que je dois faire pour réparer.
Je pensais que vous alliez justement non, dire que, et revenir sur, s'il n'y a pas ici, il y a là-haut. Et que si ça...
Non mais non, ça, c'est pas qu'il n'y en a pas fait le dîne, on a fait le dîne. C'est pas quand on n'a pas condamné, quand on est arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas le condamner. C'est pas qu'on n'a pas fait le dîne, on a fait le dîne. On l'a jugé.
On l'a jugé.
Donc il n'y aura pas de problème, non, il ne sera pas jugé par le ciel. Il ne sera pas jugé pour cette faute-là. Probablement qu'il y a d'autres fautes, mais non, il ne sera pas jugé. C'est... Quand il n'y a pas de tribunal, alors c'est le ciel qui va juger. La Gemara demande qu'est-ce qui se passe une fois qu'il n'y avait plus de tribunaux juifs. Les tribunaux ne pouvaient pas condamner. Les Romains nous ont empêchés de par exemple, de condamner à mort, etc. Donc. Alors la Gemara a dit, oui, il n'y a plus, les peines de mort n'existent plus, comme telles, comme données, mais elles existent. Hachem fait en sorte que quelqu'un qui mérite une certaine peine de mort meure de cette manière-là. Hachem peut se débrouiller pour que quelqu'un qui, en fait, mérite quelque chose qui s'appelle lapidation, meurt d'une façon qui corresponde à la lapidation. Mais ce qui est grave là-dessus, c'est qu'il ne faut pas se dire que si je vois que mon voisin est mort de telle et telle manière, je peux en inférer que bon, c'était une crapule, il méritait, etc. On ne peut pas remonter, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de remonter. Tu n'as pas le droit de juger. Mais pour ta gouverne, sache que c'est pas qu'il va s'en tirer sans rien du tout, mais ça c'est dans l'hypothèse où il n'y a pas de tribunal du tout. Mais là il y a un tribunal, il a jugé. L'Ashgaha a été telle qu'on n'a pas pu le condamner. Ça veut dire qu'on peut très bien penser qu'Hachem s'est débrouillé pour qu'on ne puisse pas le condamner. C'est-à-dire que néanmoins il est passé en jugement, éventuellement on a... Il a été quitte pour la peur, peut-être, il ne savait pas. Il s'est dit, bon, là, il...
Oui, mais pour le premier, de toute façon, il y a une justice divine. Si Hachem a fait en sorte qu'il ne soit pas condamné, puisqu'en fait, c'est un tribunal humain qui ne l'a pas condamné, et que normalement, il n'y a pas à revoir ce jugement même
en bas. Même en haut.
Où est la justice divine si cet homme-là est coupable?
Non, mais il est coupable, il ne va pas être puni pour ça. Il y aura des conséquences dans l'ordre de la justice divine. Quand quelqu'un fait une faute, il n'y a pas seulement le fait qu'il a fait la faute. Ça a en général des conséquences, éventuellement, des choses qui vont se retourner contre lui, etc. Il y aura des conséquences. Hachem, il aura quelque chose, mais il ne va pas être condamné pour ça. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Non. Shem Shamizbeach Haya Tzarech Liyot Min Avanim Arbe Velo Matsevat Even Achat Kach HaSanhedrin. On avait dit le Sanhedrin il doit être, lui non plus il ne doit pas être d'une seule pièce, c'est-à-dire avec un seul juge. De même que le misbéach, il est fabriqué avec plusieurs pierres. Le misbéach, c'était ou bien un misbéach de terre, c'est-à-dire on avait une coque, si vous voulez, et on remplissait de terre. Ou alors on prenait des pierres, et on bâtissait le misbéach avec des pierres. Misbéach avanim ta'aseli. Vous me ferez un misbéach de pierre, avec d'avanim au pluriel. C'est pas un misbéach en pierre, de la pierre, du béton, du ciment, de ce que vous voulez. Non, ce sont des pierres. Et on avait ce fameux problème, alors comment le misbéach, il doit être parfaitement cubique. des arêtes, très, des angles bien droits et tout. Alors, pour ça, comme on fait avec des pierres, il y avait le fameux Shamir. C'est pas le Premier ministre. Il y a une espèce de ver de terre qui ronge la pierre et qui servait à lisser. Vous n'avez pas lu les histoires de Ashmedai, du démon Ashmedai, qui avait piqué le.
Non, ce qui m'intrigue, ce que je ne peux pas dire, c'est.
On aurait pu dire d'une autre manière qu'on veut qu'il y ait effectivement une unité.
Mais justement, on veut le composite. On pourrait, parce que dans l'idée, on pourrait dire, mais l'unité. Il y a ce problème d'unité. Quand est-ce qu'il arrive la première fois dans l'histoire, le problème de l'unité? Ce problème d'unité des pierres? Jacob Avinu. Quand il est arrivé, il a mis les pierres, etc. Et puis elles se sont battues. Alaï, Yaniar, Tzadik est trop chaud, le Tzadik qui mettra sa tête sur moi, etc. Donc Hachem a fait en sorte qu'elle devienne une seule pierre, une Matseva. Et à ce moment-là, c'est devenu l'ancêtre du Beth Amikdash, cette Matseva. Sous forme de Matseva. Alors que quand on va construire le Beth Amikdash, Hachem, déjà après, Hachem a dit, je n'en veux pas. C'est pour moi une abomination. Donc il y a cette idée, on pourrait dire, ben, c'est parfait la Matseva. Elle dit encore mieux que... Non, la Torah dit, non, je ne sais pas ce que je veux. Moi, je veux un assemblage parfait. Un assemblage, je fais de plusieurs pierres. Le clan d'Israël, il est fabriqué avec plusieurs pierres. Mmh. Alors maintenant, le problème du formatage des pierres, c'est aussi un problème. Quelque part, il va bien falloir se frotter les uns aux autres pour arriver à fabriquer le misbeach au bon format, avec des bons angles, etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir apprendre à vivre ensemble. C'est-à-dire, on ne va pas disparaître. Parce que si on avait une matzeva, ça voulait dire qu'on s'est complètement fondu. Mais ça, c'est déjà ce fameux thème dont on a déjà parlé plusieurs fois, le problème de la fusion. Au Hachem, la Torah, elle n'est pas pour la fusion.
Mais là, il n'y a pas cette... Excusez-moi, je vous ai peut-être... Non, il n'y a pas cette idée que... ce qui change, du coup, mais c'est que le Misbéa... Et sur Dachem de manière très précise, quand même une construction. Ça serait le jugement comme construction, alors que la Matseva, c'est une pierre naturelle, bien sûr, qui va être taillée, mais je veux dire, c'est un bloc qui n'est pas assemblé, qui n'est pas construit.
Oui. Alors, dans l'idée qu'il apporte ici, c'est que tu juges seul. Le roi, Shlomo Amelech, tu pourrais tenter de juger seul.
Oui.
Et donc, puisque tu es obligé de nommer d'autres juges, alors tu as un problème, il ne faut pas que ça soit une achéra, etc. Donc il y a tout ce problème-là. Shishit, Lotisbach, Lifna Shem Lokecha Shor Vase, Shem Rubi Vamot, Keshem Shem Bedin, Menukim Ayu Betzedek, Kach Ayu Menukim Mimum, Shenemar, Kulcha Yafa Raiati, Umum Enbach. Donc on dit Shor au C, tu n'apporteras pas un Shor ou un C avec un défaut, avec un Mum. Quand tu dois apporter un taureau, tu dois apporter un agneau, etc., je ne te permets pas d'amener un animal avec un Mum, avec un défaut. Là, c'est la même idée, d'accord ? C'est-à-dire que dans les Dayanim, il faut que le Bedin doit être menouké, c'est-à-dire doit être totalement propre, le tzedek. Ça doit être des tzadikim. Pas seulement qu'il ne soit pas achéra, hein, mais il doit être positivement des tzadikim. Non, c'est la suite, il n'a pas cité tout le verset. Quand tu dois apporter un taureau ou un agneau, etc., il ne faut pas qu'il ait de défaut.
aussi l'idée de mettre en parallèle les chefs Kim et les Kambana.
Oui. Oui, ce qui sert dans la Avoda, ce qui est au service d'Hachem, ils sont vraiment au service d'eux. Eh bien, ils ne doivent pas avoir de défauts. Alors, il y a des défauts qui sont les défauts physiques des animaux. Et puis, il y a le défaut du juge qui est mis sur le même plan. Le défaut du juge, c'est comme un défaut, défaut d'un animal. Et ça invalide toute la démarche. C'est-à-dire, on ne peut pas apporter comme corps. Finalement, à la limite, on pourrait se dire, bon, prenez quelqu'un qui prend, il a un taureau qui a un petit défaut, mais ce taureau, il vaut 100 fois plus que le taureau de l'autre qui n'a pas de défaut. On pourrait dire, bon, je l'apporte avec son défaut, mais j'apporte quelque chose de grandiose pour Hachem. Il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Et on peut se demander, en quoi est-ce que c'est tellement important qu'il n'y ait pas de défaut si finalement, comme dans le cas de figure que je décris maintenant, il fait un beaucoup plus gros effort que l'autre à amener un taureau qui lui coûte, je ne sais pas moi, 50 000 euros, et l'autre il apporte un truc qui lui coûte 5 000. Il y a un petit défaut, il a un truc sur la paupière, etc. C'est un défaut qui existe chez nous. Il a un petit défaut sur la paupière. Quasiment presque invisible à l'œil nu, quoi. Et si on ne regarde pas spécifiquement, on ne voit pas. C'est un moum. On n'a pas le droit. Pourquoi est-ce que c'est... Les défauts... On voit, sinon c'est Quasimodo, quoi. C'était comme ça avant au Moyen-Âge où le premier fils il allait dans l'armée, je crois, puis après celui qui ne savait pas quoi faire de lui, on le mettait dans la prêtrise, quoi. C'est le défaut des Kohanim, mais Kohanim aussi n'ont pas le droit d'avoir de défaut. Un Kohen qui a un défaut, par exemple, supposons un Kohen. Il est gaucher. La Avoda, ça se fait avec la main droite, mais ça doit être ta main droite. Il faut que ta main droite soit ta main droite. Un gaucher, il ne peut pas faire la Avoda. Alors, il travaillera au Beth Amikdash, mais la Avoda elle-même, il ne peut pas la faire. Parce que la Avoda se fait avec la main droite.
Ça doit être gaucher, c'est considéré comme un défaut.
Oui, parce que le côté droit, c'est le côté de Rachamim. Le côté droit, de façon générale, c'est le côté de la tendresse, de la famille, mais pas le din. La même chose, si quelqu'un a un défaut physique ou un truc comme ça. Bon, il y a des choses pour lesquelles, effectivement, quelque chose ne peut être. À la limite, si vous n'avez pas la bonne taille, on ne vous prend pas comme pilote de chasse. Hein, c'est pourquoi c'est, il y a un moment, ouais, il faut bien. On a défini. Choses comme ça qui sont. C'est pas fait pour vous, quoi. Bah, très bien, les premières voitures qu'on avait, on avait une grosse Volvo. J'étais trop petit, je suis très petit. Il fallait que je décide où je touche les pédales, où je vois bien. C'est pas de la blague, j'étais toujours en train de me redresser sur le. Je conduisais sans arrêt. Déjà que je ne voyais pas très bien, mais c'est pas, les Volvo n'étaient pas faites pour les petits formats.
En matière de voiture, j'ai un ami qui est de grand construit immense à qui on a offert une voiture de sport.
Je peux penser.
Je ne rentrerai pas dedans. C'est extraordinaire. Il fallait vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, un petit défaut, c'est la porte ouverte à de plus grand, en fait. C'est ça.
Je ne sais pas vraiment. Justement, je voulais un peu en discuter avec vous, mais... Alors, bon, bien sûr, un défaut. De quel défaut parle-t-on ici chez les juges? On ne parle pas de défaut physique, on parle de défaut.
C'est pas qu'une sorte de perfection du geste, quoi. C'est ça l'essentiel, quoi. Perfection du jugement, c'est quelque chose qui de A à Z est exactement comme il faut.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut que le bonhomme qui parle soit. Qui ne mette pas de parasite dans ce qu'il dit, quoi. Donc, quelque part, on ne puisse pas lui dire cause toujours, tu sais bien que toi.
Tu dis ça parce que.
Ou qu'il ne puisse pas même se le dire à lui-même, d'ailleurs. C'est vrai que quelqu'un qui est gaucher, il peut très bien s'éduquer, mais il n'aura jamais la dextérité. Qu'on a quand on est. Bon, s'il pouvait le faire avec la main gauche, même s'il sait le faire avec la main droite, c'est pas la même chose. On veut que la chose soit faite. Bon, mais. On veut aussi qu'il voit, qu'il n'ait pas de défaut de vision, il ne peut pas venir avec ses lunettes, ou. Etc. Si. Il y a une chose intéressante, par exemple, on mettait pas, par exemple, le Kohen Gadol dans un tribunal qui devait juger de l'opportunité d'ajouter un mois de Hadar supplémentaire. Pourquoi? On dit quelque chose de très très important, c'est que quand il à Yom Kippour, il n'arrête pas de se tremper, dans le mikvé de Slavé, etc. Et donc, si on est tard dans la saison, alors il va faire froid, l'eau sera trop froide. Alors, il est capable de dire, bon, moi, je ne suis pas intéressé, alors, on a l'impression, quoi, le Kohen Gadol, il va décider en fonction de la température de l'eau quand il va devoir aller au mikvé Yom Kippour. On n'est jamais sûr. C'est pas sûr qu'il ne sera pas influencé dans son jugement par ce raisonnement-là.
C'est peut-être de ne pas le mettre aussi en porte-à-faux.
Oui, quelque part, on ne veut pas. C'est sûr. Voilà, on va s'arrêter là et on verra la suite du. Le déroulement du procès la prochaine fois. Bon, ben, en fait, je pensais, je me suis trompé, je croyais qu'on avait déjà terminé ce. Donc, je m'étais demandé sur quoi on allait travailler là, sur quel genre de midra, quel sujet. Comme toujours, là, je vous propose, si vous avez des idées quant au sujet que vous voudriez traiter. Si vous avez un sujet, on cherchera après si on trouve un midrash qui le traite. Enfin, c'est toujours comme dit ma femme, tu demandes toujours aux gens une suggestion, puis après tu ne fais pas. Donc c'est aussi un moyen d'être sûr qu'un sujet ne viendra pas, c'est de le proposer.
Vous avez quelque chose de volontaire dessus. Oui, c'est on est d'accord.
Oui, pardon. Attends, on aura besoin de tes lumières parce que il faut qu'on organise. Bon, j'aurai besoin de toi là pour les ordinateurs. Et je sais pas quand, dimanche. Tu pourras un moment dimanche. On se parle au téléphone.
Oui.
Ok, d'accord. Parfait, bonsoir. Chodesh Tov.